retour sur le plateau de Géopolis, hein, sur Euradio, où nous parlons avec Bruno Philippe, hein, journaliste au Monde, spécialiste de l'Afghanistan, de ce pays. On est revenu évidemment sur l'histoire, hein, de l'Afghanistan, de l'invasion soviétique aux talibans. On arrive à la chute des talibans, intervention occidentale, on s'en souvient, 20 ans, on est presque 20 ans après, hein, qui avait été déclenchée suite aux attentats du 11 septembre, qui avait été mis en place de l'Afghanistan par Ben Laden. Cette intervention occidentale de 2001 à l'automne 2001, on sait qu'elle s'est faite quand même dans la précipitation, mais est-ce qu'il y avait un plan, quelque chose où on est allé comme ça et...
Alors, il y a eu un plan des Américains et de la CIA. Vous vous rappelez qu'Ahmad Shah Massoud, donc le lion du Panjshir, le grand résistant, a été tué par des djihadistes belges le 9 septembre 2001 parce que Al-Qaïda et les talibans ont voulu éliminer Massoud parce qu'ils pouvaient savoir qu'après le 11 septembre, il y allait avoir une attaque américaine. Ils ont anticipé. Donc, les Américains ont fait une opération. En réalité, il y a eu très peu de soldats américains sur le sol. Ils se sont servis de ce qu'on appelait l'Alliance du Nord, qui était donc une alliance de différents groupes moudjahidines sous la férule d'Ahmad Shah Massoud. Évidemment, il était mort, mais ses lieutenants étaient encore vivants. Et donc, ce sont eux qui, depuis le nord et nord-est de l'Afghanistan et la vallée du Panjshir, sont arrivés dans Kaboul. D'ailleurs, c'est toujours assez intéressant parce que si vous prenez l'histoire de l'Afghanistan, il y a beaucoup de combats, beaucoup de luttes, mais il y a aussi une tradition où les villes tombent sans combattre. On l'a vu cet été, mais on va y revenir. Mais Kaboul, en 92, tombe pratiquement sans combat. J'y étais, il y avait une dizaine de jours où c'était Kaboul ville ouverte. Il n'y a pas eu de combat. Les moudjahidines sont arrivés comme dans du beurre. Bon, après, ils ont commencé à se combattre eux-mêmes, mais ça, c'est une autre histoire. L'arrivée des Américains en novembre 2000, eh bien, pareil, Kaboul tombe sans combattre et les talibans s'en vont. Ils déguerpissent. Et j'en ai oublié une. 1996, quand les talibans arrivent, Massoud laisse le terrain pour éviter un conflit dans Kaboul et s'en va. Donc voilà, donc les choses se passent. C'était une incise, mais c'est intéressant de voir. Il y a une façon afghane d'éviter le combat aussi. On a toujours l'image de ces combattants farouches, etc. Mais il y a aussi des tactiques qui consistent également à essayer de faire que les choses se passent soit dans le compromis, soit donc dans l'évitement du combat. Et voilà, donc ils arrivent dans Kaboul et les talibans déguerpillent. Alors évidemment, les talibans sont dans beaucoup de régions afghanes. Ils ont beaucoup déçu. Il y avait beaucoup d'attentes, comme je disais tout à l'heure. Les talibans incarnaient le retour à la paix, la fin de la guerre civile. Finalement, ils imposent un régime abominable qui déplaît à de nombreux Afghans. Leur soutien va s'effriter. Et donc, militairement, ils ne vont pas avoir les capacités de résister à un assaut qui est lui-même pas très important non plus. Hein. Comme je disais, il y avait pas beaucoup de troupes américaines, il y avait des forces spéciales, mais c'est un autre mystère des différentes étapes de la guerre afghane.
Et alors vous y êtes, hein, en Afghanistan à cette période. Racontez-nous un peu ce que vous nous voyez, l'état d'esprit des personnes que vous côtoyez, que vous rencontrez. Voilà, surtout avec l'expérience que vous avez.
J'étais pas là le jour de l'arrivée des Américains. Moi, je suis arrivé par le Pakistan. J'étais à Jalalabad. Et alors, j'ai eu l'insigne honneur de poursuivre Ben Laden dans la montagne, qui était le truc le plus corne-cul qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que les Américains, ou plutôt la CIA et les Britanniques, le MI6, les deux grandes organisations, services secrets américano-britanniques, avaient eu l'idée absolument géniale de financer des groupes armés, des clans pachtounes à l'est de l'Afghanistan, qui étaient en fait des trafiquants de drogue. Bon, ça les dérangeait pas, les Américains et les Britanniques. Donc, ils ont financé ces trafiquants de drogue dans l'espoir que ces trafiquants de drogue, qui étaient des locaux, auraient les moyens de pouvoir capturer Ben Laden. Évidemment, tout ça a été une catastrophe totale. Les Américains, les Anglais se sont fait totalement avoir par ces bandits. Ben Laden s'est barré. C'était déjà un des épisodes assez farfelus, enfin farfelus avec des guillemets, parce que tout ça n'est pas très drôle, de l'arrivée. C'était mal parti, si vous voulez. Les Américains ont compté sur les seigneurs de guerre, au sens quasi chinois du terme, vous savez, les seigneurs de guerre entre l'écroulement de l'Empire chinois en 1911 et l'arrivée des communistes en 1949, les seigneurs de guerre, là, c'était les seigneurs de guerre afghans. Ils ont compté sur eux pour essayer de rebâtir un Afghanistan post-taliban. On a vu le résultat. Mais c'était, encore une fois, c'était mal parti. Je vous raconte cette anecdote parce que ça symbolise bien le début d'un truc qui était promis à l'échec.
Et ça rejoint ce que disait Bernard Guetta hier. Il disait, ce que j'ai constaté au début, quand les troupes américaines, l'armée américaine a décidé de mener l'opération, personne n'y connaissait rien en Afghanistan. Personne.
Non, personne n'y connaissait rien.
Personne n'y connaissait rien aux réalités de l'Afghanistan, en fait, au sein de l'armée américaine. Ils n'avaient aucun spécialiste.
Oui. Il y a eu à l'époque, après le 11 septembre, des petites annonces qui sont passées dans le New York Times cherchant des gens qui pouvaient parler l'arabe et le persan. Alors, quand on voit le budget annuel de la CIA, on peut se poser des questions tout de même. J'ai du mal à penser qu'il n'y avait pas dans la CIA des gens qui parlaient persan tout de même. Il y avait eu tout de même l'implication américaine de la CIA avec les Moudjahidines durant des années entre 79 et 92. Enfin, entre 79 et au moins 80, le départ des Soviétiques en 89. Après, on a su aussi que la CIA avait donné des informations à George W. Bush sur les menaces de terroristes, d'attentats, etc., qui n'ont pas été suivies, les conseils de la CIA. Donc, dire que personne ne connaissait rien à l'Afghanistan, je ne sais pas ce que disait Bernard Guetta hier, mais c'est peut-être un petit peu exagéré, au sens où on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de culture historique. L'Afghanistan était quand même... un gros morceau sur l'échiquier géopolitique central asiatique depuis des années tout de même. Moi, je trouve que c'est assez surprenant l'amateurisme dont a fait preuve, dont ont fait preuve les Américains, les Britanniques et autres puissances occidentales impliquées dans l'Afghanistan post-Taliban.
Et puis les Américains qui, à partir de 2003, en plus, se sont engagés sur un autre terrain, celui de l'Irak, et du coup, on laissait un petit peu tomber d'une certaine manière l'Afghanistan. Ça a compté beaucoup peut-être dans le...
Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu un déplacement, je ne suis pas le seul à penser, il y a eu un déplacement du focus, si je puis dire, américain, de l'Afghanistan à l'Irak, ça c'est clair. Et puis bon, après, vous vous souvenez, quand Obama est arrivé, a été élu, il y a eu ce qu'il a appelé le surge. Il y avait une volonté de désengagement, mais en fait, il a renvoyé des troupes parce que ses conseillers militaires lui ont dit, il ne faut pas abandonner l'Afghanistan, donc il ne faut pas dégarnir trop militairement le pays. Donc, il a renvoyé des troupes et tout ça, évidemment, a continué. C'était le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire de soutenir ce régime d'Hamid Karzai, qui était donc le premier président afghan installé par les Américains en 2000. Avec aussi les résultats qu'on sait.
Alors, Gilles Doronsoro, qu'on a eu dans une précédente émission, qui est un chercheur sur l'Afghanistan, on lui a demandé plusieurs fois qu'est-ce qui a quand même marché dans cette opération, qui partait, il y avait des objectifs assez nobles, et quand même, en plus, il y a eu des investissements massifs, on l'oublie, pour essayer de faire de l'Afghanistan une démocratie. À chaque fois, sa réponse est implacable, on a raté sur toute la ligne, ce n'est qu'une succession d'erreurs. Est-ce que vous partagez cette lecture ?
Oui, j'ai lu son dernier livre là-dessus. Lui, effectivement, il a une lecture totalement négative de la... je serais assez d'accord avec lui. Alors, cela dit, je ne me permettrai pas trop de juger ce qu'il peut dire, parce que lui, il a beaucoup travaillé en Afghanistan durant les régimes d'Hamid Karzai et d'Ashraf Rani, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que le seul aspect positif de ces années sous ces régimes afghans pseudo-démocratiques, je dis pseudo-démocratiques parce qu'ils ont été élus, mais en fait, c'était pas une démocratie, évidemment, c'est quand même l'émergence d'une classe moyenne qui a permis à des femmes, notamment, de... J'étais au Tadjikistan, donc le pays voisin de l'Afghanistan, le mois dernier. J'ai interviewé des réfugiés afghans, notamment une jeune prof de français de 21 ans, qui donc avait un an lorsque les Américains sont arrivés à Kaboul en 2001. Et elle me dit, mais moi, je sais même pas ce que c'est qu'un taleb. Pour moi, j'ai toujours vécu écolière, étudiante, jeune femme, portant un léger voile, sortant avec les copines. Elle est une Hazara. C'est une chiite, minorité chiite. Mais donc, tout de même, ce qu'il faut dire, c'est que ces 21 années de régime, encore une fois, pseudo-démocratique, mais malgré tout libéral, sur le plan, plus libéral, disons, on peut dire libéral, mais plus libéral sur le plan de la société, ont permis tout de même à des jeunes, et donc encore une fois, notamment à des jeunes femmes, d'avoir une vie bien meilleure que celle qu'avait eue leur mère ou leurs sœurs aînées. Donc ça, là-dessus, c'est pas négatif. L'émergence aussi, en général, comme je disais tout à l'heure, d'une classe moyenne qui existait quasiment pas avant. L'ouverture de l'Afghanistan aussi à des problématiques qui les dépassent, qui les dépassent au sens positif du terme, qui sont plus larges qu'elles. Alors qu'avant, il y avait quand même très peu d'accès à l'information, pays enclavé, pays replié sur lui-même, pays envahi, etc. Donc ça, on peut dire que ça a tout de même incarné pour l'Afghanistan une autre étape de leur histoire. Après, toute la construction, la volonté américaine de... Ils avaient dit qu'on ferait pas de... Vous savez, l'expression américaine de regime change. Mais en fait, si, ils ont voulu changer la donne. Ils ont voulu imposer leurs hommes. Ils ont voulu imposer leur système. Et ça, évidemment, ça n'a pas marché.
Alors, il y a une décision aussi qui a évidemment facilité le retour des talibans, si elle ne l'a pas précipité. C'est la décision des Américains, je crois que c'était en février 2019, de Donald Trump particulièrement, de mener des pourparlers directs. Alors ça paraît hallucinant quand même, de mener des pourparlers directs avec les talibans à Doha, au Qatar, sous l'égide du Qatar, sans passer par le gouvernement afghan, qui était financé à 75%, 75% par les Américains. C'est
ça,
incroyable.
C'est une ironie assez extraordinaire. Oui, tout à fait. Bon, on sait ce que Trump voulait. On sait, au-delà de Trump, ce que voulaient les Américains, c'est-à-dire se désengager de l'Afghanistan comme il s'était désengagé de l'Irak. Donc, il y avait cette volonté-là. Trump a estimé que la fin justifiait les moyens et que pour cela, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'entente entre le régime d'Ashraf Ghani, effectivement soutenu par les Américains et les talibans, il fallait passer directement dans une négociation avec les talibans qui marginalisaient totalement le pouvoir légitime de l'Afghanistan. Alors, c'est assez curieux. Ça ne pouvait pas marcher, ou plutôt ça ne pouvait marcher que pour préparer le retrait américain. Ça ne pouvait pas marcher comme une solution politique.
Alors les talibans, les Américains vont commencer leur retrait, c'était en avril de cette année, en avril 2021. Le 15 août, les talibans sont à Kaboul. On va écouter une capsule de Renew sur le sujet. Et puis ensuite, on aura quelques questions sur les perspectives, hein, ce qu'on peut essayer de dessiner pour le futur de ce pays.
L'Afghanistan aux mains des talibans, deux décennies après leur éviction par les forces américaines. Les combattants ont investi l'intérieur du palais présidentiel à Kaboul, symbole de leur victoire militaire dans un pays qu'ils ont reconquis à une vitesse foudroyante en moins de 4 mois. Mais alors que de nombreux Afghans craignent pour leur avenir, un porte-parole des insurgés a affirmé qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire. Je pense qu'un gouvernement afghan inclusif, c'est la demande, c'est la volonté et le désir du peuple afghan. Ils veulent ce gouvernement. C'est donc un soulèvement populaire. Sur les réseaux sociaux, l'ancien président Ashraf Ghani a publié une déclaration après avoir fui le pays. Il y déclare avoir pris la difficile décision de quitter la capitale afin d'éviter une effusion de sang.
Ashraf Ghani, le président afghan avait juré, hein, c'était quelques mois plus tard dans une interview à un journal allemand, qu'il ne fuirait pas dans le dernier avion, qu'il mourrait pour l'Afghanistan. Il est pourtant parti, je crois, aux Émirats Arabes Unis. Triste fin pour un homme qui avait écrit un livre intitulé Fixing the Failed State, comment réparer les États ratés, hein, en 2009.
Ashraf Ghani, c'est aussi le symbole de l'échec, parce que c'est un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Bon, c'est un Pachtoun, né en Afghanistan, mais qui a passé des années de sa vie à l'étranger, qui est marié avec une Libanaise. C'est quelqu'un qui était en fait pendant des années, durant toutes les années de l'occupation soviétique, c'est un Afghan de l'étranger. Il n'a plus de liens réels, enfin il a sans doute des liens familiaux, mais il est hors sol par rapport à un Afghanistan qu'il a quitté, j'ai plus la date en tête, mais il y a des années. Donc, c'est une sorte de pièce rapportée qui a comme obsession le micromanagement au quotidien, qui lit toute la nuit des rapports. Je crois qu'une fois, il a passé toute la nuit à lire un rapport sur la distribution, le collecte des ordures dans Kaboul. Enfin, c'était un technocrate, un bosseur fou, extrêmement austère, qui travaillait encore une fois jour et nuit, qui était très autoritaire, qui piquait des colères homériques quand il estimait que ses conseillers n'avaient pas été à la hauteur, mais qui était en fait totalement déconnecté des réalités. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Et là aussi, il incarne bien toute cette volonté de reconstruction d'un pays qui prend les mauvais hommes pour pas faire les choses comme il aurait fallu les faire. C'est-à-dire là aussi, ne pas imposer des systèmes qui sont conçus de l'extérieur et qui ne tiennent pas en compte les réalités. Exactement les erreurs qu'avaient fait les soviétiques. C'est aussi, l'histoire se répète. Je disais dans l'article que vous parliez tout à l'heure que les Anglais, lors de la première guerre anglo-afghane au 19e siècle, aussi au début, ils ont voulu prendre un émir à leurs bottes, à l'installer au pouvoir, ça n'a pas marché. Après, les Anglais ont eu une stratégie beaucoup plus intelligente qui a consisté à essayer de contrôler les choses de l'extérieur. Donc en utilisant, comme je le disais un peu au début, l'Afghanistan comme état tampon, comme état qui pouvait justement permettre de faire coexister l'Empire russe et l'Empire britannique des Indes, mais sans interférer dans la politique intérieure de l'Afghanistan. Ils avaient compris la leçon. Les Soviétiques ne l'ont pas compris, pas plus que les Américains. Et donc, on est revenu à la case départ.
Et alors, on a entendu un mot intéressant dans ce reportage, un mot qu'on a beaucoup entendu cet été, quand les talibans se rapprochaient de Kaboul, le mot « inclusif ». Beaucoup de gens, moi personnellement, je ne croyais pas, mais qui croyaient aux promesses d'inclusivité, l'inclusivité du gouvernement taliban.
Là aussi, c'est des vocabulaires, des jargons contemporains qui ne sont pas en phase avec les réalités. Qu'est-ce que ça veut dire pour les talibans? Inclusivité, ce n'est pas leur problème. Ce sont
ça
des pages.
Ça va avoir marché, en tout cas.
Ça n'a pas marché tellement pour l'Afghanistan.
Non, mais en tout cas, beaucoup d'Occidentaux ont voulu des crédits.
Les talibans restent un pouvoir essentiellement soutenu et composé de Pashtuns. Donc, ils n'ont absolument pas envie d'inclure des minorités ethniques comme les Tadjiks, les Hazaras ou les Ouzbeks. Deuxièmement, ils n'ont pas du tout envie d'avoir des femmes au pouvoir, d'inclure des femmes au sein de leur gouvernement. Donc, tout ça, c'était un fantasme.
Les talibans, qui sont toujours dominés par les mêmes figures que la première période où ils étaient au pouvoir.
Alors oui et non. Disons que celui qui a négocié avec les Américains, c'est le Mollah Baradar, qui était un chef important lors des talibans, ce que j'appelle toujours le taliban saison 1, donc 96-2001. Et en fait, il a été un peu marginalisé lorsque le gouvernement taliban a été formé. Il a été marginalisé au profit de ce qu'on appelle le clan Haqqani. Les Haqqani étant des Pashtuns pakistanais, grands djihadistes antisoviétiques durant les années 90, dont l'un des fils aînés, Sirajuddin Haqqani, un dur parmi les durs, proche d'Al-Qaïda, proche des services secrets pakistanais, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Donc il y a effectivement des figures de l'Afghanistan talibanisé saison 1 qui sont restées, mais qui, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, apparaissent comme relativement marginalisées au profit de radicaux, d'extrémistes pro-pakistanais. Donc Sirajuddin Haqqani est aujourd'hui ministre de l'Intérieur.
Des perspectives réjouissantes que vous annoncez là.
Alors voilà, c'est là tout de suite, être optimiste, ça serait un petit peu compliqué, d'autant qu'on voit que les talibans n'ont pas la maîtrise complète du pays, puisque des attentats assez fréquents ont eu lieu, revendiqués par l'État islamique, puisque l'État islamique est adversaire des talibans, ce qui achève de compliquer un petit peu plus le truc, dans la mesure où il y a cette rivalité État islamique-Al-Qaïda, les talibans restant quand même les alliés d'Al-Qaïda. Et Sirajuddin Haqqani, le ministre de l'Intérieur, étant lui-même un homme d'Al-Qaïda.
Alors, je dépasse mon timing, mais j'ai quand même deux questions que je voudrais vous poser. Éric Bouvet, il nous disait, pour expliquer, parce que c'est quand même compliqué à comprendre cette victoire des talibans. Alors, on n'a pas de chiffres définitifs, j'imagine que c'est compliqué de savoir combien ils sont, ces talibans. Mais l'Afghanistan, c'est quand même un pays de 40 millions d'habitants. On nous parle d'entre 70 000 à 100 000 talibans contre une armée qui était théoriquement composée de 300 000 hommes. Et alors, évidemment, je lui posais aussi cette question. Il me dit, mais c'est juste avec l'argent notamment de la drogue. Ils ont payé tout le monde et ils ont gagné. Est-ce que vous partagez cette lecture ?
Oui, bien sûr, d'une certaine manière, l'argent de la drogue, l'argent tout court, mais pas seulement. L'une des raisons principales de la victoire des talibans, c'est une victoire par défaut. Encore une fois, en 2001, beaucoup d'Afghans se sont réjouis de cette victoire qui marquait la fin à la fois de la guerre civile des années 90 et du pouvoir taliban. Mais au fur et à mesure que les Afghans se sont aperçus que les régimes politiques, même élus qui avaient remplacé les talibans, étaient parfaitement corrompus, que la justice dans les campagnes n'était pas rendue, que les dommages collatéraux, comme on dit, provoqués par les bombardements américains faisaient qu'il y avait beaucoup de civils qui étaient tués dans des bombardements. Enfin, il y a eu une accumulation d'erreurs de ces régimes et donc de plus en plus de gens dans les campagnes se sont ralliés aux talibans. Ils ne sont pas seulement ralliés aux talibans parce qu'on leur a donné de l'argent, ils sont ralliés aux talibans parce qu'ils étaient dégoûtés de ce régime qu'on leur avait imposé. Et puis, j'imagine aussi, je ne suis pas retourné en Afghanistan depuis un certain temps, je n'ai pas du tout couvert cette période-là, mais j'imagine que simplement les espoirs que des gens un peu plus âgés avaient mis dans cette nouvelle donne pro-américaine étaient évidemment largement déçus. Donc je crois qu'il y a un mélange de tout ça qui a fait que ce nouveau système qu'on a essayé de leur imposer n'a pas porté ses fruits.
Et les talibans, ils ont vraiment, en tout cas pour l'instant, gagné, parce que la première période des talibans, vous l'avez rappelé, il y avait quand même une résistance, il y avait l'Alliance du Nord, il y avait la vallée du Panjshir. Maintenant, il n'y a même pas de gouvernement en exil, il y a tout le territoire est sous leur contrôle, tout l'Afghanistan s'est rendu.
Voilà, il y a eu cette mini tentative de résistance de la vallée du Panjshir de l'ex-commandant Massoud. Son fils, Ahmad Massoud, a essayé de réunir autour de lui des combattants pour pouvoir résister contre les talibans. En fait, la vallée du Panjshir est tombée presque sans combattre. Là aussi, les talibans sont rentrés là-bas comme dans du beurre. Quand j'étais au Tadjikistan, l'autre jour, j'ai rencontré un certain nombre de Tadjiks qui me disaient que si résistance il y avait, elles étaient vraiment sporadiques dans des coins reculés de vallées adjacentes de la vallée principale. J'étais au Tadjikistan au mi-septembre, on est fin novembre, je crois que c'est terminé. Ahmad Massoud, je crois qu'il est en exil à Douchanbé. Amoula Saleh, pardon, qui était le vice-président, autoproclamé président de la République en exil, est aussi au Tadjikistan. Et pour l'instant, une résistance intérieure sur le mode de celle qui avait été d'Ahmad Shah Massoud père ne semble pas se dessiner du tout. Bon, après, il n'est pas du tout impossible que les talibans finissent par... le pouvoir des talibans finisse par s'effriter, d'autant plus que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le pouvoir est aux mains des durs, les divisions sont déjà là à l'intérieur même du gouvernement taliban de l'Afghanistan. Il y a déjà des divisions, il y a déjà des différences d'approche, il y a déjà des compétitions internes. Donc on peut très bien imaginer, je ne vais pas du tout jouer les Madame Soleil, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait une fragmentation du pouvoir des talibans qui conduise à l'émergence d'insurrections locales, voilà, un nouvel épisode, un nouvel retournement dans l'histoire pour le moins chaotique de l'Afghanistan.
Merci. Une dernière question quand même sur, je voudrais pas terminer sans l'évoquer, évidemment, la terrible situation humanitaire sur place. Vous avez des correspondants hein, du monde, notamment sur place, qui couvrent la situation. Alors, c'était déjà une situation de sécheresse depuis des années. Il y avait le Covid aussi qui a touché l'Afghanistan. Je rappelle que 75% du budget afghan était financé quand même par les Occidentaux. Tout ça, il y a plus.
On sait que tous les biens détenus par la Banque centrale afghane sont maintenant gelés à l'étranger. Et on sait aussi, selon ce que disent les responsables des Nations Unies, que là, on est en train, à l'approche de l'hiver, l'hiver est très froid en Afghanistan, on est à l'approche d'une catastrophe humanitaire qui risque d'être la plus grosse catastrophe humanitaire actuelle sur la planète. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, il y a des négociations, notamment entre l'Union européenne d'un côté, les Américains avec les talibans, où évidemment tout le monde se trouve dans une situation assez compliquée, pas de volonté de reconnaître les talibans, prise de conscience du fait que s'il n'y a pas un canal de communication qui continue à exister entre l'étranger et les talibans, eh bien l'aide humanitaire ne va pas pouvoir parvenir en Afghanistan. Bon, bien sûr, il y a aussi des initiatives locales, d'ONG ou autres, mais non, la situation est tout à fait alarmante.
Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Philippe, d'être venu nous en parler. Hein. On parle déjà plus beaucoup de l'Afghanistan. Hein. C'était la chute, c'était il y a 2 mois et demi, 3 mois. On en parle déjà presque plus. Donc, merci encore de nous avoir donné les dernières actualités devant ce public et pour les ondes de radio.